Quelquefois, nous n'avons plus la force de méditer la parole. Peut-être comme ce ruisseau qui se dessèche, peut-être on la lit encore un peu. Mais on sent très bien que la parole de Dieu nous échappe. On sent très bien qu'elle ne fait plus cet effet de fraîcheur dans notre âme. Alors nous traversons tous des périodes de désert, de sécheresse dans notre marche spirituelle. Et nous avons chanté au Seigneur, conduis-moi dans les sentiers de l'éternité, dans les voies, dans ta voie, dans tes voies qui sont justes et véritables. Parce que quand nous sommes assoiffés, quand nous n'avons plus ces réserves spirituelles, nous avons tendance à chercher ailleurs. Et en cherchant ailleurs, nous sommes souvent pris par des situations qui viennent se greffer, des situations difficiles qui viennent se greffer sur notre assèchement. Alors, dans Ésaïe chapitre 58, verset 11, il y a quelque chose qui m'a fait, ce verset qui m'a fait beaucoup de bien, où il est dit, « L'Éternel sera toujours ton guide. » L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Alléluia. Même quand nous traversons les déserts, des terres arides, des terres sèches, ben l'Éternel est là. Et alors, j'ai été conduit justement à réfléchir et le Saint-Esprit m'a conduit vers le peuple hébreu. Quel autre peuple que les Hébreux n'ont pas vécu justement aussi intensément ces terres arides, sèches et ces déserts qu'ils ont traversés? Quel périple et quelle leçon pour nous! Parce que l'apôtre Paul reprendra justement ces exemples de l'Ancien Testament. Jésus également. Parce que l'Ancien Testament, c'est pas un livre qu'on met de côté et uniquement se focaliser sur le Nouveau Testament. Jésus est partie prenante de l'entière partie de la Bible, des deux parties de la Bible. Alors dans Hébreux, il nous est dit dans Exode chapitre 15, verset 22, quand ils sont sortis d'Égypte, la première chose, c'est qu'ils prirent la direction du désert de Chour. Et il nous est dit que après 3 jours de marche, après cette délivrance d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, ce prodigieux miracle, je crois que c'est un des plus grands miracles, un des plus grands de l'Ancien Testament, extraordinaire. Ils étaient dans la réjouissance et ils ont marché 3 jours et ils sont arrivés dans ce désert de Chour. Et après 3 jours de marche dans le désert, il nous a dit, ils ne trouvaient point d'eau. Difficile. Pourtant, c'est un peuple qui a été conduit par Dieu. Et ils étaient là, sans eau. On aurait presque pu se dire, mais comment se fait-il qu'ils soient sortis d'Égypte, traversent la mer Rouge, passent 3 jours dans le désert, sans eau, est-ce que Dieu ne pourvoit pas? Et de surcroît, il est dit au verset suivant qu'ils arrivèrent à Mara. Là, ils ont trouvé de l'eau, mais cette eau était amère. Alors, quelle déception! Eux qui n'ont pas trouvé d'eau au bout de 3 jours tombent sur de l'eau qui n'était pas consommable, pas buvable, pas potable. Et là, Moïse cria vers Dieu. Et Dieu lui montra un bois qu'il devait jeter justement dans les eaux ces eaux amères, les eaux de Mara. Et alors, L'eau devint douce, potable. L'eau était assainie. Et ça nous rappelle, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix. Nous étions tous des brebis errantes. Nous étions tous attirés par ces convoitises de ce monde. Nous étions tous pécheurs, pécheresses. Et grâce au sacrifice de Christ, Jésus pendu au bois, Jésus nous purifie, nous a purifiés de tous nos péchés. Jésus a adouci, au travers de son sacrifice, toutes ces amertumes du monde, toutes ces choses qui n'ont pas satisfait l'âme humaine. Dieu les a adoucis. Extraordinaire. Nous voyons toutes les choses de la même manière en les voyant au travers de l'œuvre de la croix. Et ils continuèrent, ces Hébreux, au chapitre 15, toujours, au verset 27, ils arrivèrent à Élim. Là, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ça m'a interpellé, je me suis dit, dans notre marche chrétienne, on a quelquefois des sources d'eau, des oasis, et ces choses nous permettent de nous ressourcer. Alors ce sont des moments, on peut dire, très courts. Il ne s'agit pas de rester à cet endroit. Il y a quelquefois des choses, frères et sœurs, qu'on peut vivre qui sont plaisantes. On aimerait bien rester. Yves nous parlait justement de vacances, de l'Ardèche, que je connais très bien, Valenciennes également. On aimerait bien y rester. On peut bien rester plus longtemps. Mais ce n'est pas notre but. Les vacances sont là pour un temps. Les vacances sont là pour nous ressourcer, pour que nous puissions justement repartir. Et le peuple d'Israël est tombé justement devant ces sources d'eau et ces palmiers extraordinaires, cette oasis. Je pense qu'ils avaient envie de rester là. Je me suis presque dit, ben tiens, ils auraient peut-être pu se dire, ça doit être la terre promise. Oui, nous passons quelquefois par des situations qui sont vraiment très plaisantes. Et je dis toujours, j'entends quelquefois cette terre de pur bonheur. Quand nous voyons nos petits-enfants, tout ça, quand on peut recevoir de l'affection tout à fait spontanée, naturelle d'un enfant, je dis toujours, il faut en profiter, c'est du pur bonheur. On aimerait bien que ces choses perdurent. Mais malheureusement, l'enfant grandit, et à la mesure, les bisous et tout ça sont beaucoup moins fréquents. Voilà. Alors, profitons justement, et c'est plaisant, mais on a comme l'impression que, et c'est ce que Dieu, parce que le but de Dieu, c'était de les emmener vers la terre promise. Et Dieu avait justement cette vision plus large. Il savait très bien que cette étape n'était pas la terre promise. Et ils étaient là pour un court instant, un court moment. Ils campèrent près de ces eaux. Et il ne s'agissait pas non plus, et pour nous en tant que chrétiens, de rester dans le contentement. Quand on lit la parole, quand on la médite, ça nous fait du bien. Et on se limite souvent en se disant, ah oui, maintenant j'ai compris ce verset, j'ai compris cette histoire, ça fait X temps que je l'ai relu, médité, et là tout d'un coup, j'en reçois une révélation nouvelle. Faut-il s'en tenir là? Parce que même au travers d'un verset unique, on reçoit des choses. Mais ce même verset, ces mêmes mots, cette même histoire, elle se décline presque dans l'infini. Parce qu'on peut toujours encore recevoir, toujours encore obtenir, toujours encore voir plus grand. Et c'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire Dieu veut nous conduire, veut nous pousser à aller toujours plus loin. Alors, ils repartirent de cet endroit. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim. En Exode, chapitre 16, verset 1. Et ils arrivèrent au désert de Sin. Alors, je disais avant que je crois qu'il n'y a pas un autre peuple qui a traversé autant de déserts et de était aride et que le peuple hébreu, impressionnant. Alors, ouais, désert de Sin, qui entre Élim et le désert de Sinaï, que vous rencontrez plus tard. Donc le 15e jour du second mois après la sortie d'Égypte, au bout de un mois et demi. Alors, des réserves d'eau, ils en avaient, parce qu'ils venaient de partir justement de cette oasis. Mais il leur fallait plus. Ils avaient besoin de pain et de viande. Et nous savons que le peuple hébreu est un peuple dur, rebelle, et murmurait tout le temps, insatisfait. Alors leur corps était hors d'Égypte, mais leur pensée était encore en Égypte. Alors ce sont des racines qui sont profondes. Et surtout quand ce peuple traverse les déserts, ils se posent la question, eux, qui sont sortis d'une grande métropole, d'une grande ville. Bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce désert? Alors, Dieu a pourvu. Dieu leur a donné la manne et la viande des cailles. Chaque jour, le peuple ramassait la manne quotidiennement. Ça nous rappelle que Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Parce que ce pain, cette manne, était là chaque matin. Après la rosée du matin, il y avait cette manne qui était là déposée. Chacun prenait justement sa mesure quotidienne pour s'en nourrir. Dieu a pourvu. Malgré qu'ils étaient dans le désert, malgré leur obstination, malgré leur murmure, Dieu a pourvu. Et Dieu était toujours encore là. Parce qu'on pourrait quelquefois se dire, mais la situation que je traverse, ce désert dans lequel je suis, peut-être aujourd'hui, je ressens que Dieu n'est plus là. Alors il y a une grande différence entre ressentir que Dieu n'est là ou pas là. C'est une attitude de foi en la parole de Dieu qui va au-delà des circonstances que nous vivons. Nous avons chanté que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de consolation, de consolateur. Ce sont des choses qu'il faut prendre à la lettre. Parce qu'on peut ressentir de la tristesse, surtout après un deuil, après une maladie, on peut avoir une crainte, ou quand on est touché par la maladie. Ce sont des émotions, des sentiments, certes naturels, certes normaux, mais il ne faut pas qu'elles prennent le dessus. Donc il faut se rattacher vraiment par la foi à la parole de Dieu. Seigneur, même si je ne ressens pas, je sais que tu es là. Seigneur, même malgré mon obstination, malgré mes résistances, Seigneur, tu m'aimes, parce que nous l'avons chanté. Seigneur, tu m'aimes. Avant que je sois né, quand j'étais encore une masse informe et vide, tu étais là. Avant que mes cellules ne se fassent, ne se composent, avant que les atomes de mon corps se composent, tu savais, extraordinaire. Oh Seigneur Jésus, tu m'aimes d'un amour, pas d'un amour humain. Le plus bel amour du monde n'est pas comparable à l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre cet amour de Dieu sans le pénétrer, sans que l'Esprit nous conduise dans cet amour du Père pour ses enfants. Parce que nous pouvons avoir cet amour pour nos enfants, humainement parlant, et on a la maladresse dans notre amour pour notre enfant. On veut le bien pour notre enfant. On le corrige peut-être maladroitement, certes peut-être par amour, mais c'est toujours encore un amour maladroit. Mais Dieu est cet amour parfait, suprême. Et quel bonheur de se rassasier de ses paroles, sachant que Jésus m'aime. Alors, le peuple d'Israël a reçu ce pain de vie. Il est dit dans Jean chapitre 6, verset 33. Et là, on revient dans le Nouveau Testament. Voyez un petit peu cette liaison, cette relation extraordinaire. L'Ancien et le Nouveau Testament, ce n'est pas une limite, ce n'est pas une frontière, mais c'est une continuité extraordinaire. Dans Jean chapitre 6, verset 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, comme le peuple hébreu l'a reçu, la manne du pain du ciel, il est dit, et qui donne la vie au monde. Et les apôtres lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis moi le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Avoir la présence de Dieu quand nous traversons des périodes de sécheresse, des périodes difficiles, ces périodes de canicule, il était par moments très difficile de sortir de la maison, tellement la chaleur était forte. Et Jésus dira, celui qui vient en moi et celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Jamais soif, avoir la présence de Dieu, être dans cette fraîcheur de Dieu, dans ce renouvellement de Dieu. Et là, pour continuer dans Exode chapitre 17, toute une fois qu'ils avaient l'eau, ils avaient reçu la manne, la viande, et ils continuaient, ils partaient du désert de Sin, selon les marches de l'Éternel, leur avait ordonné les campères à Réphidim. Et là, encore une fois, où le peuple, il nous a dit, ne trouva point d'eau à boire. Il passait vraiment des situations, de périodes où ils étaient nourris, abreuvés, et après ils tombaient nouveau dans cette période de sécheresse, et puis là, au combien il était important de retrouver de l'eau. Et là, Dieu est toujours encore là. Dieu les accompagne toujours au verset 17 de Exode, au chapitre 17, verset 6. Voici. Il dira à Moïse, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et en sortira l'eau et le peuple boira. Et Moïse fut ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Moïse frappa le rocher. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les psaumes, ils reprennent cette histoire, cette situation du peuple d'Hébreu quand Moïse frappa le rocher. Et là, on peut faire un rapprochement également avec le sacrifice de Christ. Et dans le psaume 78, verset 15, il dit, il fendit les rochers dans le désert. Il leur donna à boire comme des flots abondants. Psaume 78, toujours. Verset 16, « Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. » Extraordinaire. Et dans Psaume 105, verset 41, « Il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent. Ils se répandirent comme un fleuve dans les yeux arides. » Ah, quelle grâce de Dieu! Quelle grâce de Dieu! Plus de 2 millions de personnes. Alors quand on lit un petit peu ces versets, on peut se dire, oui, Moïse a frappé le rocher, et souvent il est employé du terme de source, mais quand on continue à lire les textes, ce sont des sources abondantes, ce sont des sources qui sont devenues des fleuves, et je me suis posé la question, mais Seigneur, 2 millions de personnes ont pu boire. Est-ce qu'on peut s'imaginer ces torrents d'eau, ce fleuve auquel Dieu a pourvu miraculeusement? Extraordinaire. 2 millions de personnes. Et là, je pense que je ne compte même pas les animaux. Extraordinaire. Cette abondance de Dieu. Et ça nous ramène au sacrifice de Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, cette grâce qui nous est donnée, cette surabondance de la grâce sur nos péchés, qui coule, qui coule, qui coule et qui coule encore. Je dirais que cette grâce de Dieu coule pour 7 milliards d'humains aujourd'hui. Dieu est mort pour 7 milliards d'humains sur la terre. 7 milliards d'humains peuvent être sauvés. S'il le décide d'être sauvé, quelle abondance de la grâce! Quelle puissance dans une goutte de sang de Jésus. Une goutte de sang de Jésus. Et ô combien, on le sait au travers des textes bibliques, que son sang a coulé sur son corps, sous le bois de la croix. Et de la croix, son sang a coulé sur la terre. Oh, quel sacrifice. Précieux sang de Jésus. Et lui, le peuple hébreu était dans l'abondance. Et comme il a dit, et pour revenir sur le verset 58 d'Ésaïe, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Si tu traverses aujourd'hui des situations difficiles, Dieu est avec toi. Ne doute pas de ce que Dieu est avec toi. Même si le soleil tape, même si le soleil est brûlant, même si l'épreuve elle est presque insoutenable, Dieu est là. Il te redonnera la vigueur à tes membres. Oh, quelle promesse! Seigneur, fortifie-moi. J'ai besoin d'être renouvelé non seulement dans mon corps, mais dans mon âme et mon esprit. Et pour cela, j'ai besoin de m'abreuver de ta présence. Et il est dit, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ce n'est pas comme une eau naturelle qu'on boit. Voir les sources d'eau vive de Dieu, l'Esprit de Dieu, avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et puis, ça me fait penser également, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu marche chaque jour avec nous comme il a marché avec le peuple de Dieu. Et quand nous pouvons voir que la manne, justement, c'est ce pain de vie qui descend du ciel, quand on voit les eaux de Mara, ce bois qui a assaini l'eau, c'est la continuité, c'est vraiment ce rapprochement du sacrifice de la croix pour nous aujourd'hui. Seigneur, oui, même si je traverse ces déserts comme le peuple hébreu, j'ai vu que tu as pourvu pour eux. Seigneur, tu peux pourvoir pour moi ce matin. Alléluia. L'Esprit nous pousse à aller plus loin. Et comme Christ a été le rocher de la bénédiction pour Israël, et aussi pour nous, l'Église, il accorde aujourd'hui. Alors je voudrais faire cette transition comme l'apôtre Paul le dira, comme je le disais avant, l'apôtre Paul qui prendra cet exemple, il dira dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, et en parlant du peuple hébreu, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Le Christ de l'Ancien Testament du Nouveau, c'est la même chose. Le Dieu de l'Ancien Testament et Christ du Nouveau Testament, c'est la même chose. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu dans notre quotidien, dans notre vie. Alors, nous traversons tous ce grand désert qu'est notre monde, avec ses idéologies, ses principes dépourvus de la vérité. Nous traversons ce grand désert qu'est le monde pour nous, enfants de Dieu. Alors je disais que oui, comme le peuple hébreu, nous avons des moments, des situations, nous tombons quelquefois sur des oasis où il suffit de prendre, où il suffit de tendre la main, où il suffit de prendre un récipient pour être abreuvé. C'est bien. Et je dis même que, frères et sœurs, le fait que nous soyons réunis aujourd'hui, le fait que nous pouvons exalter, célébrer Dieu, ce sont des oasis à ciel ouvert. Alléluia. Nous puissions réfléchir. Beaucoup de frères et sœurs dans le monde sont obligés de se cacher clandestinement, obligés de taire leur voix pour ne pas être dénoncés, pour ne pas être repérés. Et nous avons ce privilège d'être réunis. Les oasis ouverts. Oh, il fait bon, Seigneur, d'être dans ta présence. Et oui, et ces oasis nous permettent justement d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir continuer à marcher sur la route. Oui, le peuple hébreu n'est pas resté sous ses 12 sourceaux d'eau et ses 70 palmiers, mais ils ont continué leur marche
et ils ont été abreuvés. Ils ont reçu ces forces qui leur permettaient de continuer et de marcher.
Alors le monde aujourd'hui, acculé par la chaleur, commence à avoir une vision du mirage. Et pour nous, frères et sœurs, ce monde, c'est également un mirage. Il n'y a rien qui subsiste, tout est éphémère. Mais en fin de compte, tout nous échappe. Même les plus belles choses que nous pouvons vivre dans ce monde sont passagères. Et nous délaisserons également toutes choses. Et oui, nous délaisserons également toutes choses. Même si nous aimons notre épouse, notre époux, nos enfants, nous les délaisserons un jour. Que restera-t-il? Et là, Ecclésiaste, vous connaissez bien ces versets. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, dit la Salomon. Et voici tout est vanité et poursuite du vent. Et il nous est dit également dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26, car il donne à l'homme lui agréable sagesse, science et joie. Voilà ce que nous avons Dieu. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable. Dieu utilise même les pécheurs pour rendre justement ces enfants qui sont dans la nécessité peut-être pourvoir à leurs besoins. Dieu utilise même les pécheurs pour le bien-être de ses enfants. Et là, nous est dit, c'est encore vanité et poursuite du vent. Même les bénédictions que nous pouvons avoir sont temporaires. Nous laisserons tout. Alors que restera-t-il des joies et des peines de ce monde éphémère? Et des bénédictions, que restera-t-il? Pour moi, il subsistera que le véritable, il subsistera que l'unique, que le vrai Dieu, celui auquel j'appartiens, celui que je sers. Alléluia! Extraordinaire, et à celui auquel je suis attaché. Et plus que nous avançons dans notre marche chrétienne, plus que nous réalisons au Seigneur que ton esprit ne s'éloigne pas de moi, je reste attaché à toi, Seigneur Jésus. Car aujourd'hui nous sommes là, demain nous ne savons pas. Dans la seconde, dans la minute qui suit, nous ne savons pas. Alors, que ces moments de ressourcement que nous pouvons avoir au travers de la communion fraternelle, que nous puissions vraiment en saisir l'importance et se dire au Seigneur, je suis content de pouvoir être là ce matin. Beaucoup ne peuvent pas, beaucoup sont alités, beaucoup sont malades, et que, oh combien ils aimeraient peut-être être là, pour certains, pour ceux qui connaissent Dieu. Parce que je disais à Jeanne ce matin, comment font donc tous ces hommes et ces femmes qui n'ont pas d'espérance quand elles sont touchées par la maladie, quand elles sont touchées par le deuil, après quoi elles s'accrochent, après quoi, après ces choses éphémères de ce monde, que restera-t-il? Pour ceux qui croient, il n'y a que Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, c'est le néant. Eh oui. Ô Seigneur, merci de ce que tu me conduis. Reste à mes côtés. Ne me lâche pas, Seigneur. Ta présence est précieuse et indispensable. Et alors je veux être comme cette biche qui soupire après les courants d'eau. Seigneur, que mon âme soupire auprès de toi. Alléluia. Psaume 42, verset 1. Alors soupirer auprès de Dieu, c'est puiser dans la présence de Dieu, c'est soupirer après les courants de l'Esprit. Seigneur, révèle-toi davantage à moi. Dans ma prière quotidienne, je m'applique le verset de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, où il est dit, je renverse, l'apôtre Paul dit, mais je me l'approprie, je renverse tout raisonnement, toute hauteur qui vient à l'encontre de la connaissance de Christ. Et je rends mes pensées captives à l'obéissance de Jésus. Seigneur, je renverse tous ces raisonnements parce que, Seigneur, j'ai besoin vraiment de la vérité. J'ai besoin des choses vraies pour mon âme. Et c'est cela, soupirer. Soupirer, c'est méditer la parole de Dieu. C'est la prière, c'est la louange. C'est la volonté de puiser. Et le fait de puiser, cela nous élève. Alléluia. Cela nous permet de franchir justement ces déserts ou ce désert que nous traversons. Et heureux l'homme qui trouve le plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit, nous est dit dans Psaume chapitre 1, verset 2. Car les racines d'un tel homme sont profondes. Oui, la sécheresse, quand elle est apparente, sont là, on a vraiment ces rivières asséchées. Mais quand ça touche les nappes phréatiques, ces choses qu'on ne voit pas. Les choses sont quelquefois pas visibles pour le chrétien, mais elle est peut-être affectée au plus profond de son âme. Il a besoin d'être ressourcé. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui a besoin d'être ressourcé au plus profond de son âme. Et l'Esprit veut nous emmener plus loin. Et l'Esprit veut t'emmener plus loin. Alléluia. Car il dira à un moment donné, Jésus dira, Simon Pierre, avance en pleine eau. Extraordinaire. Alors oui, Pierre, il savait pêcher, il savait ce que c'était la pêche, il connaissait la voix de Jésus déjà, et pourtant là, Jésus dira, avance en pleine eau, et jetez vos filets, jette ton filet. Ah, je me suis posé cette question, Seigneur, mon filet, moi je ne suis pas pêcheur, pêcheur de métier, je ne sais pas. Mon filet, qu'est-ce que ça peut être mon filet? Et on peut avoir cette connaissance de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, dans votre situation, vous avez une certaine connaissance de Dieu, une certaine compréhension de Dieu, des révélations de Dieu pour vous, des expériences de Dieu pour vous. C'est ça votre filet. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Mais prends ton filet, prends ce que tu connais déjà. Prends ta compréhension, prends tes expériences et jette-les encore plus loin. Oh Seigneur, merci. Dieu ne veut pas qu'on reste justement dans le contentement de ce que nous expérimentons. Et c'est comme ça que j'ai ressenti ce verset quand j'ai lu. Jette ton filet. Et je me suis dit, mais le filet, c'est quelque chose de propre à soi, le filet. Parce que quand on pêche avec les mailles du filet, il faut les raccommoder, c'est son propre filet qu'on répare. Et Jésus dit, mais Seigneur, je connais déjà, oui. Mais Seigneur, j'ai une certaine connaissance de toi, oui. Seigneur, j'ai expérimenté les choses avec toi, oui. Mais avance encore en pleine eau. Dieu veut nous emmener, Dieu veut t'emmener plus loin. Alors jette la connaissance que tu as de Dieu qui est bonne. Mais Dieu veut t'emmener plus loin encore à connaître, à comprendre. Il veut t'emmener plus loin à expérimenter. Avant la pêche miraculeuse, ils n'ont rien pêché. Et là, la pêche miraculeuse. Et lui, Dieu veut justement que tu sois dans cette abondance. Et on peut penser à la Samaritaine, parce que je disais que nous sommes sous l'effusion de l'Esprit. Et nous l'avons également chanté, l'Esprit est répandu sur toute la terre. La Samaritaine. Mais Jésus dira, oh si tu savais le don de Dieu. Et qui est celui qui te demande à boire? Tu aurais demandé toi-même à boire. Et à un moment donné, la Samaritaine dira, mais Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Cette eau inaltérable. Oh Seigneur, alléluia, oui, j'ai besoin de cette eau vive qui désaltère tout mon être, qui vivifie mon corps. Quand nous nous plaçons sous la croix, on prend la Sainte-Seine après, quand nous nous plaçons sous la croix, pensez à cette eau, à cette eau en abondance d'eau vive, de grâce qui coule. Ne nous contentons pas uniquement de serrer les mains et de prendre. Parce que comme l'apôtre Pierre, quand Jésus lui dira, il faut que je te lave les pieds. Non, Seigneur, non. Jésus voulait l'amener plus loin, nous l'avons également chanté, tout le chemin de la sanctification. Dieu voulait l'amener plus loin pour expérimenter des choses encore plus grandes, pour pouvoir avoir la force justement de résister sur ces grandes épreuves que nous pouvons traverser. Si nous n'avons pas la toute-puissance de Dieu, nous faiblirons et nous irons chercher du secours ailleurs, dans ces eaux nauséabondes du monde. Et pour que ces choses ne puissent pas se faire, ah ben, comme Pierre, quand Jésus a dit, il faut que je le fasse. Oh, quand elle commence à comprendre, Seigneur, pas seulement les pieds, pas seulement les mains, mais pas seulement les pieds, mais la tête, les mains, mon corps entier. Mais nous ne contentons pas de venir à croire uniquement en prenant ce qu'il nous faut, parce que les mesures de Dieu sont surabondantes. Nous pouvons carrément nous placer sous cette eau, sous ces sources d'eau vive, sous ces eaux abondantes. Et cela vivifie tout mon être. Oui, je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Que la joie du salut, peut-être ce matin, me ressaisisse à nouveau, Seigneur. Oh Seigneur, je manque de joie, Seigneur. Je manque de courage. Mais Seigneur, je veux venir à la croix ce matin, comme tu as conduit le peuple hébreu à travers les terres arides, à travers le désert, Seigneur, à travers la chaleur. Tu as toujours pourvu, malgré leurs murmures. Seigneur, je te demande pardon pour mes résistances et mes réticences. Seigneur, merci de ce que tu me purifies, de ce que tu me laves, de ce que tu me renouvelles, de ce que je retrouve la joie du salut. Alléluia. Et rentrons dans ce flot de sa présence. Tu oins, huile ma tête et ma coupe déborde. Que l'onction de ton esprit coule sur nous, coule sur moi, comme ça coulait sur la barbe d'Aaron. Ces choses ne sont pas de l'Ancien Testament. Elles sont pour nous également. Aujourd'hui, est-ce que nous avons cette soif de les rechercher? Est-ce que nous allons jeter sous la parole de Jésus notre filet? Seigneur, oui, je veux comprendre davantage encore. Je veux te connaître davantage encore. Parce que Dieu n'est pas limité, Dieu est illimité. Je disais la dernière fois que toute l'éternité ne suffira pas pour comprendre les voies de Dieu, les profondeurs de Dieu, l'amour de Dieu. Alors, tu oins, huile ma tête et ma coupe déborde. Et oui, ce fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu, comme il est dit dans Ézéchiel. Ô grand Amna, prophète, jusqu'à cette eau qui coule du temple de Dieu, de l'eau jusqu'à la cheville. Et oui, on peut se contenter de rester et d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. C'est plus loin, jusqu'au genou. L'esprit l'a poussé plus loin, jusqu'au bassin. L'esprit l'a poussé plus loin. Et j'ai l'impression que plus qu'il poussait ce prophète, plus que les torrents d'eau étaient abondants, parce qu'il nous a dit qu'il n'arrivait même plus à traverser la nage. L'ange a dû le reprendre pour le mettre sur les bords, sur les rives, sur la rive. Extraordinaire. Et nous savons que cette source d'eau, c'est la source de la vie. De Dieu coule la vie. En Dieu, il n'y a pas d'ombre. En Dieu, il n'y a pas d'once de mort. Il n'y a rien. Comme l'apôtre Jean qui est tombé comme mort. Il était comme mort. Il ne peut pas être mort. C'est comme mort. Il était tellement ébloui par la gloire et la splendeur qu'il était en train de voir de Dieu. Qu'il est tombé comme mort. Il n'y a rien qui a pu le tenir. Incroyable. Et ça, c'est qu'une vision que Jean a eue. Imaginez-vous une présence constante dans la présence de Dieu. Il faut vraiment avoir un corps glorifié à notre corps. Alléluia. Rentrer dans ces profondeurs de Dieu. Mais nous pouvons expérimenter en nous déjà ces arts de l'esprit. Alléluia. Ces prémices de l'esprit en nous.
Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce. Et je terminerai par le psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée. » Dieu se laisse trouver dans les terres arides, et ça me réconforte. Même quand j'ai plus envie, même quand les forces me manquent, même quand je suis abaissé, humilié, oppressé. Seigneur, tu es là, dans ma situation avec moi. Seigneur, je veux le croire par la foi. Je ne veux pas me laisser envelopper par la peur, par ces sentiments qui couvrent tout. Seigneur, je veux avoir cette voix dégagée. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Alors, comme nous avons plongé notre corps dans une grande étendue d'eau, si vous êtes au bord de la mer, vous pouvez vous y baigner, mais cette étendue, elle vous dépasse, cette étendue. Et pourtant, vous pouvez y plonger votre corps, vous pouvez y nager, c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, on peut rentrer dans les profondeurs de Dieu et être inondé par sa présence. Et je dirais que être inondé de la présence de Dieu, ça ne fait pas de dégâts, comme sur le plan naturel, hein, n'est-ce pas? Quand on entend toutes ces inondations, quand il n'y a pas d'eau, et après quand il y a de l'eau, ça fait autant de dégâts, j'ai l'impression. Mais là, être inondé de la présence de Dieu, ça ne provoque pas de dégâts, au contraire. C'est de la réjouissance déjà pour nous, personnellement. Et cette réjouissance, elle se transmet, pourquoi? Parce que ma coupe déborde. Et quand l'œuvre de Dieu déborde au de moi, ça réconforte mon entourage. Et ça me permet justement d'avancer en sagesse, en grâce, d'avoir le discernement sur les choix que je peux faire parce que tu es avec moi. Ô Seigneur, merci de ce que tu m'as gardé. Et je disais justement à Fred aussi ce matin, on ne réalise pas toujours ce que Dieu fait dans le secret pour nous. Quotidiennement, combien de fois avons-nous été gardés sans que nous le sachions? Nous rentrons des courses tout tranquillement, peut-être, ou des vacances. Et Dieu a peut-être permis qu'on ait vu un accident. Allez savoir. Je disais que certainement le nombre en est encore plus grand que les choses dont nous avons conscience. Alléluia. Oui, cette miséricorde de Dieu est pour nous. Alors, nous allons prendre la Sainte Cène. Alors, les Hébreux n'étaient pas exempts de douleur, n'étaient pas exempts de fatigue, de problèmes, de difficultés, mais ils avaient toujours cette abondance de l'eau et de la nourriture. Frères et sœurs, nous avons toujours l'abondance de la nourriture et de l'eau. Malgré les douleurs, la fatigue, les problèmes, les difficultés, Seigneur, tu es là. Alléluia. Amen, alléluia.
Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est ce grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit et ça. M'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est ce grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour merveilleux. Justement, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. L'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je loue, je prie comme David. Je chante, je danse comme David. Alléluia, que nous allons dans cette abondance de la source d'eau vive, quand mon esprit est animé par la victoire de la croix pour moi. Alléluia, nous prenons la Sainte Seine, Seigneur, merci de ce que je suis un enfant aimé, de ce que je suis un enfant pourvu. Merci pour ta grâce, pour l'abondance qui coule de la croix. Quand je prends ce pain et ce vin, Seigneur, c'est l'abondance de la grâce pour moi. Tout n'est que grâce, Seigneur. Je n'ai aucun mérite, mais Seigneur, merci de ce que je suis aimé. Et quand l'Esprit de Dieu agit en moi, Seigneur, je peux que te chanter, je peux que te prier, comme David peut te louer. Alléluia.
Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez renouvelés. Et je me tiens également à disposition après la Sainte Seine pour ceux qui ont besoin de la prière. Amen. Alléluia. Je laisse à Yves la continuité.
Alléluia. Amen.
Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai deux versets. Le premier c'est 1 Samuel 15, 22 qui dit « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » J'ai regardé ce que voulait dire l'obéissance. L'obéissance veut dire prêter l'oreille. Il y a un autre verset que je veux vous lire. C'est Jean 6, 53 qui dit « Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel et il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Prêtons l'oreille à ce que le Seigneur a dit. Buvez-en tous, car ceci est le sang de l'Alliance. Levons-nous ensemble et suivons le commandement de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, prions-le. Bénissons son nom. Buvez-en tous pour que, ensemble, nous soyons avec lui au ciel. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour ces merveilles que tu as faites. Seigneur, comme tu l'as dit, par la bouche de son serviteur, tout est par grâce, parce que nous ne méritons rien. Sois loué et sois glorifié, Seigneur, pour toutes tes merveilles que tu fais chaque jour au milieu de nous. Nous t'aimons et nous t'adorons et nous voulons placer toutes choses entre tes mains. Nous prenons ce pain et ce vin en reconnaissant que tu es notre Sauveur et que tu es notre Seigneur, bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous te louons, Seigneur mon Dieu, ensemble, en famille, car tu dis que là où deux ou trois s'accordent ici-bas en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois béni au milieu des louanges de ton peuple. Sois élevé, Seigneur mon Dieu, dans ce monde, car tu es Seigneur et tu es Sauveur. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.